Un autre monde.
Un autre monde. Une émission produite par Richard Federman. Aujourd'hui, entre deux. De l'envie du ciel au retour au monde.
En fait, depuis toute petite. Et toute petite, j'appelle ça 12 ans. 12 ans, 12 ans et demi. Parce qu'à 12 ans et demi, j'ai voulu me tuer. J'ai voulu arrêter ma vie. C'est passé inaperçu. Mes parents l'ont quasiment pas vu puisque j'avais avalé des choses et j'ai dormi très longtemps. Ce qui a un petit peu surpris quand même ma mère. Mais ça n'a pas été plus loin. Et puis quand j'étais ado, plus tard, pareil, j'avais toujours cette truc de vouloir me vraiment me foutre en l'air, quoi. Ne plus être là. Et j'ai toujours pensé d'ailleurs que je ne vivrais pas longtemps. J'avais toujours dit que j'arriverais pas jusqu'à mes 30 ans. Et je savais pas pourquoi. J'ignorais pourquoi. Et j'étais toujours quand même confrontée à ce truc que j'étais tout le temps aussi, bien souvent, hyper bien dans ma peau. Je pouvais bouffer le monde, je pouvais être la reine du monde, à pouvoir tout faire, tout entreprendre, tout. Et tout de suite, très vite, papa avait vu cette lucidité. Quand j'étais jeune, il me parlait de choses quand même qui n'étaient pas très adaptées aux jeunes filles de 12-13 ans, mais et il aimait bien parler avec moi. Alors, c'était toujours bizarre parce que j'étais toujours très, très, très gaie et puis toujours très, très triste. Et toujours cette tristesse qui me pesait, qui me faisait mal. J'avais toujours mal de cette tristesse. Et puis, j'ai vécu tout le temps comme ça, entre deux eaux. Toujours. C'était tout le temps ça. Et on pensait que c'était mon caractère. J'étais faite comme ça. Et j'ai rencontré un homme avec qui j'ai fait des enfants. Et là, c'était devenu compliqué parce que j'ai fait une dépression, une vraie dépression, tout de suite après ma fille. Et pareil, c'est pas passé inaperçu parce que mon compagnon comprenait pas pourquoi j'étais tellement mal. Après, j'ai eu mon fils, pareil, de nouveau redépression après la naissance. Alors, on mettait ça sur le compte, tu sais, des trucs postpartum. La maman qui fait sa petite dépression après la naissance, parce qu'on s'occupe plus d'elle, parce qu'elle n'est plus le centre d'intérêt, parce que c'est le bébé qui prend dessus. Sauf que non, c'était pas ça, c'était vraiment autre chose. C'était vraiment toujours aussi douloureux et toujours cette envie de me foutre en l'air parce que je me sentais inutile. Et ça revenait souvent. Inutile, bonne à rien. Et je pensais que c'était parce que ma mère était dure, parce que mon père, ils avaient divorcé, parce que mon père était alcoolique. Bref. Et puis on s'est séparés, ça a été un choc. Le gros choc. Je me suis retrouvée avec deux enfants en bas âge. Je m'étais fait taper sur la gueule parce que c'était comme ça que je l'ai vécu. Et là, ça a été terrible. Une descente aux enfers. Mais les enfants étaient là et il fallait être là. Et toujours cette envie de me tuer. Et je comprenais pas. Et je suis allée voir un jour un psy. Hein, quand même, un jour. Je me dis, il faut quand même un jour que j'aille voir un psy. Et j'ai essayé de lui parler. Mais lui, il considérait que je faisais des caprices. J'étais une femme capricieuse parce que je n'avais pas reçu et ce que je voulais dans ma vie. Une enfance dure, l'aîné de pas mal d'une fratrie de 5, avec deux qui se sont rajoutés puisque ma mère s'est remariée. Et donc, je ne savais pas gérer mes frustrations. Bon, ok, très bien. Alors que moi, je trouvais que justement, au contraire, je savais très bien le faire puisque je ne montrais à personne que j'étais pas bien dans ma vie, que j'étais pas bien dans ma peau. J'ai rencontré le deuxième homme de ma vie, important. J'ai fait un enfant avec lui. Pareil, on s'est quitté. Bim, rebelote. Et la grosse, grosse dépression. De surcroît, j'avais auparavant aussi été larguée par celui que je croyais être mon âme sœur. Donc tout ça, c'était trop. Et là, j'en ai parlé à mon mari. Et lui, il n'a pas supporté. Et donc, pareil, rebelote, je me fais larguer. Je reviens sur Mulhouse, parce que j'étais à Paris. Et toujours, 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 cette tristesse, cette envie de me foutre en l'air. Et un jour, j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête tout ça parce que mes enfants, il fallait qu'ils vivent. Il fallait surtout pas qu'ils portent cette tristesse. Il fallait qu'ils puissent vivre et que je leur donne autre chose que de la tristesse. Parce que je leur donnais, parce que c'était le théâtre à la maison, hein. C'était genre boule à facettes, c'était on racontait des histoires, c'était ouais, c'était. Mon fils me dit toujours, maman, mais à la maison c'était tout le temps, bien souvent, beaucoup plus drôle que triste. Nous, on t'a jamais, rarement vu triste parce que moi je vivais ça hors ma vie de mère, je me cachais bien. Et cette capacité tout le temps à tout cacher, à tout rentrer en soi pour pas charger les autres, quoi. S'oublier, en fait. S'oublier dans quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser, dans quelque chose qu'on ignore, dans quelque chose... On sait bien qu'il y a quelque chose qui cloche, on sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sait bien qu'on est complètement dingue. Et parce que les gens vous disent que vous êtes un personnage, vous êtes un clown, vous êtes... Mais non, c'est pas ça la vie. On a envie de se calmer, on a envie de ne plus entendre cette voix qui vous dit tout le temps « Fous-toi en l'air, pends-toi, fous-toi sous un train, saute du 16e étage puisque ta grand-mère y habite. » Et puis un jour, on se prend en main et on va revoir un médecin. Parce que le premier nous a déçus et rebelote, on raconte sa vie, on machin. Et ça fait écho, et on se dit, ah, il y a quelque chose qui cloche. Mais on ne trouve toujours pas. Toujours, toujours pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il faut des années, je pense, pour trouver ce qui ne va pas. Et puis, il faut trouver le bon médecin. Et puis, il faut être sincère. Et moi, je n'étais pas sincère. Hein, parce que je me mentais tout le temps. Parce que je ne comprenais pas pourquoi une jeune femme pouvait vouloir avoir tout le temps envie de se foutre en l'air. Hein. Et pas y parvenir, en plus. Même malgré les enfants. Ou surtout à cause des enfants, je sais pas. Ou grâce aux enfants, je n'ai jamais su dire pourquoi. Et puis un jour, le médecin vous dit, est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ont été hospitalisés dans un hôpital psychiatrique?
Waouh.
Et là, choc. Je l'ignorais puisque je ne voyais plus mon père. Ma mère, non, je savais que ma mère, non, mais mon père. Donc je voyais plus mon père, donc j'ai cherché mon père. J'ai trouvé, j'ai discuté avec lui, effectivement, sa sœur avait fait un long séjour dans un hôpital psychiatrique. Ah, ok, très bien. Une piste, mais laquelle, hein, puisque je ne savais pas pourquoi, il ne le savait pas pourquoi elle avait été fait ce séjour, donc bon. J'en parle à mon médecin et je lui dis, mais je ne sais pas pourquoi. On fait des tests, on continue, et le médecin très pertinent, il me lançait parfois des questions comme ça sur lesquelles je devais réfléchir et il me disait j'ai une piste mais je sais pas. Et puis le temps passe, on fait sa vie, on continue sa vie tant bien que mal, on se consacre à soi, à ses enfants, on se consacre plus à sa vie sentimentale parce qu'elle est trop douloureuse et on se rend bien compte que les chocs émotionnels comme ça, ça n'arrange rien, mais strictement rien, bien au contraire. Ça détruit. Et pourquoi cette sensibilité? Et pourquoi on le prend si mal? Et pourquoi on descend tellement loin lorsqu'on se fait plaquer ou quand on décide de plaquer quelqu'un? C'est pas normal d'être comme ça parce que les autres le vivent, mais pas à ce point-là. Moi, ça me rendait malade pendant des jours, des mois, même encore aujourd'hui, certaines histoires, je crois qu'elles sont toujours pas réglées et j'ai toujours pas passé la douleur. Et on traîne ça avec soi et on sait pas pourquoi. Et puis un jour, on voit ses enfants grandir, on les voit partir et ouf, bizarre. Et pareil, choc, c'est un choc, le temps a passé avec tout ce que ça veut dire. Puis on se retrouve un peu seul. Et puis on se retrouve tellement seul qu'on veut l'être pour de bon. Et puis on veut arrêter tout pour de bon. Donc on appelle le papa de la dernière, qui est encore là, qui est petite. On lui dit, écoute, on invente une maladie, on invente un cancer. Pour donner l'enfant à son père. Et on décide de partir, pour de bon cette fois-ci. Donc on se prépare. Un vrai rituel. Et puis on prend des médocs un soir. Hein. On écrit une lettre à ses enfants, à ses amis, ceux qu'on aime. On prend des médocs un soir. On espère ne jamais se réveiller. Et malheureusement, le lendemain, on se réveille. Et là, c'est le choc. Et là, on se dit, maintenant, ça suffit. Si t'es pas morte sur ce coup-là, tu n'auras plus le droit de mourir, plus jamais. Donc on appelle un SAMU et on explique son cas et on se fait interner dans un hôpital psychiatrique. Et là, on cherche pour de bon. Et là, on trouve. Et là, on trouve. Parce qu'on se retrouve face à un médecin qui vous dit, au bout de 6-8 semaines, écoutez, au regard de votre vie, avec l'anamnèse qu'on a fait ensemble, le travail qu'on a fait ensemble, on pense, on suppose que vous êtes bipolaire, à tendance schizophrène. Ben oui, forcément. Et là, ça fait un choc. Et c'est un choc, mais pourtant, on est rassuré parce qu'on se dit, toute sa vie, on savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qui nous pesait, qui nous faisait mal, qui nous empêchait de vivre notre vie, qui nous serrait les poumons, serrait le cœur, tout en muselé dans son corps. J'avais tout en mal partout, comme une vieille. Et là, on va pouvoir faire quelque chose de tout ça, et on va pouvoir y travailler, et on va pouvoir, comme un papillon, sortir un jour de cette espèce parce que là, c'est comme quand on est dans la... Comment ça s'appelle, là, t'as la larve, t'as la chenille, et après, t'as la... Comment ça s'appelle, le coup? Oui, voilà, on est dans cette chrysalide, quoi. Et on sait qu'un jour, on va pouvoir en sortir, quoi. Et c'est ce que je fais depuis maintenant 8 ans. Et après 8 ans, je peux dire que ces troubles bipolaires sont un cadeau. C'est vraiment un cadeau, même si c'est invalidant, même si c'est handicapant. Parce que ça m'a permis de ne plus me mentir. Je ne me mens plus depuis 8 ans. Et surtout, je me suis remise au monde. Et je me suis échappée du carcan familial, parental, filial, sociétal. Je suis ce que je dois être. Je dis bien ce que je dois et ce que je veux être. Et j'ai le droit, j'ai ce droit, mais fondamental, de ne pas être performante. J'ai le droit d'être malade. J'ai le droit d'être... dingue. Parce que quelque part, ça rend dingue. Hein. Faut pas croire. Hein. Moi, j'admets d'être complètement dingue. Hein. En même temps, quand on doit lutter contre ses humeurs en permanence, on est dingue, hein. On devient dingue. Mais j'apprends à plus lutter maintenant, parce que je suis en train d'accepter, justement. J'accepte que enfin j'ai quelque chose qui va me perturber toute ma vie, mais qui, à côté de ça, m'apporte énormément de choses. Parce que ça permet la créativité, ça permet une ouverture d'esprit, ça permet une empathie, ça permet de la bonté envers soi-même et envers les autres, ça permet de la joie de vivre, ça permet d'ouvrir les yeux, ça permet tellement de choses, tellement d'être en vie en fait, de se sentir en vie. J'ai dit, le jour où je ne ressentirai plus tout ça, alors là oui, là j'aurai le droit de dire j'arrête. Parce que je sais pourquoi j'avais envie d'arrêter ma vie. Et parce que c'était pas moi, en fait. C'était ce qui se faisait pas dans mon cerveau. Donc c'était pas de ma faute. J'ai toujours cru que c'était de ma faute. Parce que les chocs émotionnels, ce à quoi on ne peut pas correspondre, ce que les attentes de nos parents, les attentes de nos sœurs, de nos frères, de nos amis, on déçoit. Ben moi, je m'en fous tout ça. Je m'en fous de décevoir. Je m'en fous de... Je suis telle que je suis. On me prend comme je suis. Si les gens n'acceptent pas, c'est pas grave. Parce que moi, j'accepte les gens comme ils sont. Et je veux surtout pas les changer. Parce que c'est ça qui fait la richesse des gens. C'est qu'on est tous tellement tous différents. Tellement tous très beaux. On est tous magnifiques.
Tout simplement, un autre monde.
C'était Entre deux. De l'envie du ciel au retour au monde. Un autre monde, une émission proposée par Richard Federman.